Le grand face-à-face est en direct et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Ça commence maintenant. Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face avec la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Salut Ali.
Bonjour à tous les deux, Natacha et Gilles. J'espère que vous êtes en ligne avec moi. Vous êtes là. C'est magique.
Oui, nous sommes là. Bonjour.
Et je suis ravi de vous retrouver comme tous les samedis pour une émission largement consacrée au monde d'après le coronavirus. Le Covid-19 signera-t-il la fin de la mondialisation? Beaucoup le pensent, beaucoup l'espèrent. Rien de moins sûr à en croire l'essayiste Zachary Carabel dans le Wall Street Journal il y a quelques jours. Oui, les frontières se ferment, des milliards de personnes sont aujourd'hui confinées, mais le coronavirus ne mettra pas fin à ce mouvement très profond, ce mouvement qui fait de notre monde un monde toujours plus interconnecté. Et il concluait sa tribune avec ces mots: la mondialisation est morte, vive la mondialisation. Alors pour en débattre, l'un des meilleurs spécialistes de ces questions, l'ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, et lui qui a été commissaire européen, qui est le président d'honneur de l'Institut Jacques Delors. Quel regard porte-t-il sur l'état de l'Union européenne depuis le début de la crise? Que répond-il à ceux qui reprochent un manque de solidarité entre les 27? Rendez-vous avec Pascal Lamy dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, le duel Polony-Finkelstein.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
On commence à s'interroger sur le déconfinement, mais je veux dire aussi très clairement aux Français que le déconfinement, ça n'est pas pour demain matin. Car aujourd'hui, c'est la logique du confinement qui doit prévaloir. Elle doit prévaloir au moins jusqu'au 15 avril, et peut-être plus longtemps si les consignes sanitaires l'exigent. Et quand je dis peut-être plus longtemps, c'est probablement plus longtemps.
C'était ce jeudi sur TF1. Le Premier ministre, face à la crise, Édouard Philippe, répondait à la question que nous nous posons tous. Quand sortirons-nous du confinement? Quand retrouverons-nous notre liberté? Des questions qui suscitent chez nous tous de l'impatience, de l'espoir. Mais la conclusion du Premier ministre était sans appel. Ce n'est pas pour demain matin. Natacha, Gilles, que retenez-vous? L'idée qu'on a une petite lumière qu'on aperçoit au bout du tunnel, ou le sentiment finalement qu'on n'est vraiment pas prêt d'en sortir? Natacha d'abord.
Je crois que, en effet, nous devons nous inscrire dans le long terme. Et je pense que surtout, ce qu'il faut bien comprendre en tant que citoyen, c'est que la problématique n'est pas seulement de savoir si, à titre individuel, nous allons sortir à un moment et si ce sera le plus tôt possible. La question est collective. C'est-à-dire que l'aboutissement, ce n'est pas seulement le moment où nous sortons. C'est la question de la reprise des activités normales, la question sanitaire, comment on fait en sorte de ne pas subir une deuxième vague et d'endiguer les nouvelles contaminations qui pourraient se développer. C'est pour ça que le Premier ministre a eu raison de le dire, c'est extrêmement complexe. Il a eu raison, je pense, d'adopter ce ton profondément mesuré et prudent, tout simplement parce que rien n'est facile, rien n'est simple là-dedans. On aurait aimé qu'il adopte aussi un ton, disons, de transparence un peu plus grande, puisque sur la question des masques, on a bien vu que le discours avait changé du tout au tout, sans qu'on assume le fait que le discours avait changé du tout au tout. Et si on veut que ce déconfinement se passe dans les meilleures conditions, il faut commencer à traiter les Français en citoyens adultes, leur dire la vérité, c'est-à-dire à quel moment il y aura des masques et des tests sans lesquels aucun déconfinement ne peut être sûr et ne peut être maîtrisé. Et c'est à cela qu'on aimerait arriver. Pour l'instant, on n'est pas encore totalement dans la transparence politique. En revanche, on sent bien la prudence.
Gilles, même question. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que disait le Premier ministre? L'espoir ou au contraire l'idée qu'on était finalement sous une douche froide et que ce n'était pas pour maintenant?
Vous vous souvenez, dans le dernier métro de François Truffaut, Gérard Depardieu, à plusieurs reprises, a une tirade dans la pièce qu'il joue, il dit « c'est une joie et une souffrance ». Là, c'est un espoir et une douche froide. C'est-à-dire, c'est un espoir parce que on aperçoit qu'après le confinement, il y a le déconfinement. Et ça ouvre une perspective, et évidemment, chacun s'en réjouit. Mais c'est aussi une douche froide parce que la question n'est pas seulement celle du moment. On a compris que ça allait être long, on a compris à demi-mot que ça allait aller au-delà du 15 avril, mais la question est celle du comment. Et ce que l'on perçoit de plus en plus, c'est que bien, ça va être ces modalités différenciées sont compliquées. Et donc, il y a une perspective, mais c'est une perspective qui est une perspective voilée, et donc c'est à la fois un espoir et une douche froide. Au-delà, évidemment, on ne sait pas exactement ni à quel moment, ni exactement quels
seront
les critères.
Pourquoi une perspective voilée ? Pourquoi ce mot, Gilles ?
Pourquoi voilée ? Ben parce que quand on essaye de se représenter ce que sera le monde d'après le confinement, la première chose qui est à peu près acquise, c'est que ce déconfinement va acter une rupture, pas seulement par rapport au monde du confinement, mais par rapport au monde d'avant le confinement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de nos habitudes sociales, de nos pratiques culturelles, de nos pratiques professionnelles, qui vont sans doute durablement être affectées par cette crise. Que le déconfinement aura une contrepartie, un coût. C'est-à-dire qu'on n'en a pas fini avec les contraintes, que si déconfinement il y a, et quand il y aura déconfinement, il faudra tester beaucoup, tracer, sans doute, on en discutera tout à l'heure, différencier certainement, et enfin, une perspective voilée, parce que ce déconfinement comporte un risque, c'est que après le déconfinement, il y ait à un moment le reconfinement. Dans les conclusions du rapport célèbre de Neil Ferguson de l'Imperial College de Londres, il disait déjà que après la levée des mesures contraignantes, il y a un risque d'un pic épidémique plus tard dans l'année. Alors évidemment, ce risque-là n'est pas certain, mais pour toutes ces raisons, c'est une perspective, et ça c'est bien, et c'est une perspective voilée parce que on mesure que le combat est encore long.
Oui, je pense que, pour ajouter ce que vient de dire Gilles.
C'est une bonne stratégie de la part du gouvernement d'annoncer la reconduction du confinement de 15 jours en 15 jours. Ou est-ce qu'il faudrait d'ores et déjà dire aux citoyens français que ça va durer beaucoup plus longtemps que ce que certains imaginent ?
C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur la question de la transparence, en tout cas de l'honnêteté.
Je ne sais pas si vous m'entendez
l'un
et l'autre,
on a un petit décalage
à l'antenne.
On a un décalage, donc j'ai entendu la question. Et donc, ce que je disais tout à l'heure sur la question de la transparence.
Léger décalage, mais l'essentiel, c'est d'être à l'antenne.
Voilà. La question de la transparence, c'est la question de savoir si le pouvoir politique prononce les mots de vérité qui vont permettre à chacun, justement, de comprendre comment ça va se passer et d'anticiper sur ce qu'il doit faire. Là où Gilles a totalement raison, c'est que les choses ne seront pas comme avant. Tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, la première chose que je ferai quand je me déconfinerai, je ferai une grande fête, etc. Eh bien non, justement. Il faut que le message passe, que ce n'est pas comme cela que ça va se passer, c'est-à-dire ce n'est pas magique, c'est pas on-off. Et justement, c'est pour ça que j'insiste sur le discours sur les masques, parce qu'il est essentiel. On voit bien que il va falloir faire en sorte que le virus ne se repropage pas. Donc, il faut expliquer aux gens, d'abord, qu'il faut que le confinement dure suffisamment longtemps, et je vois en Angleterre où les autorités n'hésitent pas à dire, bah, de toute façon, les écoles ne rouvriront pas avant septembre, et je ne comprends toujours pas pourquoi chez nous, en effet, c'est de 15 jours en 15 jours, comme si on considérait que les citoyens ne sont pas capables d'entendre qu'évidemment, ça va être plus long que ça. Ensuite, sur les masques, on a bien vu que, je le disais, le discours a changé. Édouard Philippe, jeudi soir, n'a pas dit « on a menti, on a fait croire que les masques ne servaient à rien parce qu'on en manquait ». Mais finalement, c'est totalement ce qu'on comprend dans son discours, puisque il dit « nous avions peur qu'il n'y ait pas assez de masques pour les soignants, donc nous les avons réservés aux soignants ». Mais donc, ils nous ont raconté des cracks. Premier point. Deuxième point. Si on veut désormais que le déconfinement se passe bien, il faut faire comprendre aux gens que ces masques permettent d'éviter que quelqu'un qui est asymptomatique ne contamine sans le savoir. Et que donc le mieux est que tout le monde en porte pendant une durée qui va permettre de réellement mettre fin à cette épidémie, accompagné de tests massifs. Donc la question qu'il faut absolument régler, c'est quand est-ce que ces conditions-là seront suffisantes seront remplies pour que le déconfinement puisse se passer bien, sachant qu'il y a une course contre la montre qui est économique là-dedans. C'est-à-dire que pendant que nous sommes confinés, l'économie est en train de se gripper de façon de plus en plus importante et qu'il y aura des gens qui risquent de rester sur le carreau parce qu'il y en a qui, pour l'instant, n'ont plus de revenus. Il y en a qui ne savent pas comment leur entreprise va pouvoir marcher. C'est tout cela qui est un enjeu. Alors, c'est un enjeu extrêmement complexe, mais je pense que plus on dira les choses de cette façon-là aux citoyens et plus ils comprendront que leur action à eux détermine la façon dont ça va se passer.
Oui.
Si je peux peut-être réagir sur deux points, un sur les Français et deux sur le gouvernement. Je ne sais pas si Ali ou Natacha, vous êtes vous-même interrogé sur la première chose que vous feriez après le confinement, mais cette question a été posée aux Français par Kantar, un institut de sondage. Et ce qui est très frappant, c'est que les attentes des Français sont
J'avoue
assez
y avoir
modestes.
Pensé.
Écoutez, je ne sais pas quelle est la réponse que vous avez apportée. Celle des Français, la première chose qu'ils veulent faire, 31% d'entre eux, c'est inviter des proches ou des amis à dîner. Et 20%, c'est aller boire un verre ou dîner dans un restaurant. Donc, on n'est pas dans la méga fête qu'évoque Natacha. On n'est pas dans « je vais faire un grand voyage autour du monde ». On est, pour l'instant, en tout cas, sur des attentes qui sont des attentes suffisamment modestes pour pouvoir être satisfaites. Quant à la communication du gouvernement, la communication étant une chose, les décisions de politique publique en étant une autre,
on verra le jour où le confinement sera levé.
Mais je dois dire quand même que sur les choix de politique publique, malgré tout, pour l'essentiel, les choix de politique économique et sociale, le soutien aux entreprises, aux salariés avec le chômage partiel, la réorganisation du système sanitaire, l'augmentation du nombre de lits, la formation des enseignants, la logistique entre le public et le privé, entre les régions qui sont en tension et le reste du pays, entre la France et ses voisins, je trouve que tout ça fonctionne quand même plutôt pas si mal que ça, en tout cas que les décisions sont beaucoup plus avisées que celles que l'on voit aux États-Unis et beaucoup plus transparentes que celles que l'on voit en Chine. Reste la question de la communication. J'étais critique la semaine dernière, vous vous en souvenez pour ceux qui écoutaient cette émission. Je dois dire que je trouve que c'est beaucoup mieux et que le reproche en manque de transparence de Natacha, je trouve qu'il vaut moins cette semaine que pour la semaine dernière. Et peut-être, en un mot, ce qui a changé, c'est que l'idée qui prévalait, enfin, le décryptage que je peux en faire en tout cas, l'idée qui prévalait était que nous étions dans une guerre au sens d'une guerre classique et qu'elle appelait, ce faisant, un discours vertical de mobilisation et que dans une guerre classique, on doit même être parfois dans la dissimulation. C'était un peu le malaise que l'on avait après la dernière intervention d'Emmanuel Macron. Là, on a le sentiment qu'il y a eu une prise de conscience qu'on n'est pas dans une guerre classique mais dans une guerre sanitaire. Et qu'on n'est pas dans un discours vertical, mais on a besoin d'horizontalité, de parler à des citoyens, d'expliquer la stratégie, de transparence sur les réalités. Et c'est beaucoup plus ce qui a été fait dès samedi dernier par Édouard Philippe et par Olivier Véran. Et je trouve qu'il y a Olivier Véran et qui a été poursuivi depuis lors. Tout cela, malgré tout, a un coût, puisque la crédibilité du gouvernement a beaucoup diminué. Le sentiment des Français que le gouvernement a caché des informations est très massif. Le sentiment qu'il a agi avec retard est très massif aussi. Et la confiance dans le gouvernement pour gérer la crise a perdu 18 points en l'espace de 15 jours. Et donc tout cela, évidemment, à terme, peut être un problème.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
En fait, on compte des mobiles et on dit qu'il y a tant de mobiles qui se sont raccordés à notre réseau. Et on ne sait pas à qui sont ces mobiles et si effectivement ils ont bougé sur le territoire. Et donc ça donne une idée sur ces mailles de combien de personnes nous avons eu, par exemple, après le confinement. Donc c'est à un moment donné, c'est une photographie. Donc on a fait une photo avant et une photo après. Nous avons effectivement transmis ces informations à l'INSERM, ce qui leur permet de connaître le nombre de personnes sur un territoire pour mieux dimensionner les d'infrastructures de soins. Et donc, ce sont des données anonymisées.
C'était la directrice générale adjointe d'Orange, Marie-Noël Jégo-Lavessière, au micro de Fabienne Sintès sur France Inter ce mardi dans le téléphone sonne. Des données fournies par l'opérateur Orange qui ont permis de mesurer l'exode massif des Parisiens au moment où le confinement était décrété. Plus d'un million de Franciliens avaient quitté leur région. Et c'est une question sur laquelle vous vouliez revenir, Gilles et Natacha, celle du backtracking, de la géolocalisation, de la surveillance numérique qui se généralise et qui est un risque aujourd'hui que craignent beaucoup, beaucoup, même en France. Natacha.
Oui, cette question, enfin, cela dit, ne se résume pas à ce qui vient d'être montré et qui est assez anecdotique, à savoir la mesure de où sont les gens. C'est la question de savoir comment utiliser des outils technologiques pour permettre de repérer immédiatement un malade et les gens qu'il a croisés. Alors, le principe est qu'il existe plusieurs façons de le faire et qu'on voit surgir des propositions. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces choses-là. Donc, ce que je lis, c'est qu'il existe plusieurs manières d'élaborer ce pistage et qu'il existerait, par exemple, des applications moins intrusives que d'autres, comme l'usage du Bluetooth pour repérer simplement les téléphones qui se sont approchés du téléphone d'une personne, comme ça si cette personne est testée positive, eh bien on va très rapidement savoir qui il a approché dans les 14 derniers jours. Et il me semble que, si j'ai bien compris ce que disait le Premier ministre, c'est plutôt ce genre d'application qui serait étudiée en France, parce que nous ne sommes pas la Chine et parce que nous n'allons pas avoir un État qui va utiliser les données individuelles. Alors, le problème est que, de toute façon, nous sommes dans une société où nos données nous sont confisquées. Nous les offrons à la puissance privée, mais heureusement, oui, dans les pays démocratiques, nous considérons que l'État n'a pas à les utiliser et n'a pas à s'introduire là-dedans. Et on peut espérer qu'il reste, malgré cette crise et malgré la peur et malgré les inquiétudes légitimes des citoyens, l'idée que cette liberté qui consiste à ne pas être surveillée par l'État est une liberté fondamentale. Et donc qu'il va falloir trouver un équilibre entre la préservation de nos libertés et la sécurité nécessaire en matière épidémiologique. Alors, simplement, je pense que tout cela doit être fait d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire en utilisant les différents contre-pouvoirs qui existent pour garantir que les mesures exceptionnelles qui pourraient être prises là à cause de cette épidémie ne seront pas ensuite introduites dans le droit commun, ce qui, hélas, est très souvent la règle, et ce qu'on a vu par exemple avec l'état d'urgence post-attentat. Mais cela relève à la fois des contre-pouvoirs qui sont des contre-pouvoirs institutionnels et de la volonté de chaque citoyen de s'impliquer dans cette question-là plutôt que de déléguer à l'État le fait de les protéger sans que les citoyens ne veuillent savoir de quelle manière ils sont protégés.
Il faut bien comprendre que la réflexion qui s'ouvre sur l'utilisation des données de nos téléphones portables, elle se fait pour un moment précis qui est le moment du déconfinement. Entre la sortie du confinement et le moment où nous aurons des traitements ou un vaccin. Avec un but qui est assez simple en réalité, c'est que pour éviter de confiner, de reconfiner tout le monde, il faut pouvoir confiner ceux qui sont infectés et repérer ceux qui risquent de l'être. Pour cela, on a l'outil le plus simple, c'est ce que l'on évoquait au début de cette discussion sur les règles de distanciation sociale qui vont perdurer après le confinement. Et pour le reste, on a des outils limités. On a la biologie qui va permettre de tester et de savoir qui est infecté. Et on a la technologie qui va permettre de savoir qui risque d'être infecté parce qu'il a été en contact avec quelqu'un qui est malade. Et donc il y a une pression qu'on comprend évidemment très bien, et on l'a vu la semaine dernière avec notre invité, une pression des épidémiologistes pour tester beaucoup et pour tracer autant qu'il est possible. Mais c'est un grand débat de société dans lequel il y a quelque chose qui est une dimension qui est relativement facile, c'est ce par laquelle vous avez commencé, c'est l'utilisation des données collectives. La géolocalisation globale, oui. anonymisée, qui n'est pas anecdotique, parce qu'elle permet d'élaborer des modèles mathématiques sur les mouvements de population afin de prédire les foyers de contagion. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez vu que cette semaine, Thierry Breton, le commissaire européen, a réuni les 8 plus grands opérateurs de télécom pour partager ces données de géolocalisation. Bon, ça, c'est pas si compliqué.
En et revanche, permettre de dispatcher justement les moyens sanitaires là où ils seront nécessaires.
Exactement. Ça, disons que c'est relativement consensuel. Là où c'est plus délicat, ce n'est pas l'utilisation des données collectives, c'est l'utilisation des données individuelles. Et là aussi, je crois qu'il faut opérer une distinction. Si c'est pour réaliser une surveillance policière des malades, comme ça se fait dans un certain nombre de pays, je pense que c'est ce qui n'est pas du tout aujourd'hui envisagé par le gouvernement, mais c'est une possibilité offerte par cette technologie.
Non, si mais qui a été pratiquée en Corée, par exemple, et qui n'est pas la Chine.
Absolument, ça a été, dans beaucoup d'autres pays. Là, je pense que ça va trop loin. Si c'est pour retrouver les personnes qui ont été en proximité des malades, on comprend bien qu'on ne peut pas le faire à la main et que l'outil technologique ouvre des possibilités. Alors, Natacha Polony a dit qu'elle a fixé un certain nombre de conditions, et je pense qu'elles sont justes, le fait que ce soit temporaire, que ce soit proportionné. Il y a une dernière question qui est très compliquée, que je voudrais juste soulever, qui est, une fois que ces conditions sont réunies,
oui, avant de retrouver notre invité,
cette application, si c'est une application, elle doit être mise automatiquement sur votre portable, ou est-ce que vous devez faire une démarche ? C'est-à-dire jusqu'où d'autorité. L'incitation doit-elle aller ? Et je crois que c'est très important d'avoir tous ces débats-là et de les avoir maintenant, parce que tout cela ne peut marcher que si l'acceptabilité sociale est là, parce que par définition, ça ne marche que si tout le monde, ou en tout cas une partie très importante de la population s'en sert. Et donc, il faut avoir dès maintenant ce débat.
Juste un mot, je suis d'accord totalement, Gilles, je suis d'accord totalement sur le fait que le débat consiste à savoir si les citoyens vont le faire d'eux-mêmes ou si ça va être imposé. Ils ne peuvent vouloir le faire d'eux-mêmes que si on leur garantit justement que tout cela préserve leur liberté, mais aussi s'ils ont l'impression que les autres éléments sont garantis, parce que le tracking, ça ne fonctionne que quand c'est accompagné de tests et de masques. Donc c'est d'où la question fondamentale dont nous parlions avant. Et c'est pour ça que je pense que il faut ces éléments-là pour que les citoyens décident par eux-mêmes, librement et avec toute leur conscience, de ce qu'ils veulent accepter et de ce qu'ils n'accepteront pas.
D'un mot, justement, Gilles, puisque vous suivez chaque semaine les études que vous menez avec l'IFOP sur le moral des Français confinés, quelles sont les grandes leçons qu'on peut tirer cette semaine de ce que vous disent, de ce qui vous remonte des Français que vous observez de près ?
Si je le dis d'un mot, en précisant en toute rigueur que c'est pas où en sont les Français aujourd'hui, mais c'est où en étaient les Français il y a quelques jours, puisque évidemment il y a un petit temps de décalage. La tendance de la semaine passée, elle se résume simplement, c'est une montée de la peur. On est passé de l'ennui à l'angoisse. C'est vrai, on a eu beaucoup de reportages, on l'a vu chez ceux qui ne sont pas confinés, mais c'est vrai aussi, et c'est ça la leçon principale, chez ceux qui sont confinés. Alors il y a des données quantitatives, des sondages qui ont été faits. 81% des Français qui ont peur de perdre un proche, 62% qui ont peur de perdre la vie. C'est absolument considérable. Et ces données-là ont été explicitées, enrichies par le suivi que l'on fait des Français dans le cahier de confinement qu'ils nous remplissent tous les jours. On voit que cette peur, elle se concentre sur certains moments, la fin de journée, les courses. Au début, les courses, c'était un moment de liberté. De plus en plus, c'est un moment d'inquiétude et ça se traduit. Ça se traduit dans les discussions qu'ils disent avoir avec leurs proches, notamment ceux avec lesquels ils ne sont pas. Ils disent le premier sujet, c'est non seulement la santé, mais on traque nos premiers symptômes. Et ça se traduit dans les pratiques. On prend plus de précautions. Ouais. Je ne sais pas si les auditeurs ou vous-même, vous allez vous reconnaître là-dedans. On espace les courses, on désinfecte les poignées de porte. Certains lavent tout leur linge, d'autres n'embrassent plus leur conjoint. Ça se traduit par la recherche de moments de relâchement. Hein, les vidéos apéros, c'est surtout des apéros.
et on évite les moments d'angoisse avec une espèce de mise à distance, de ces flux d'informations. Je pense que si ça se confirme, cette montée de la peur, c'est un élément très important parce qu'on vit quelque chose d'unique, une expérience commune de l'humanité confinée. Et si cette peur est partagée, eh ben la question de la résilience, pas seulement de l'économie, mais celle des individus, va se poser avec une grande acuité.
Merci pour ces précisions, Gilles, et nous ferons le point avec vous, évidemment, tous les samedis, il est midi et demi, à suivre dans le grand face-à-face de France Inter, le débat avec Pascal Lamy.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
En débat, le coronavirus, est-il le signe de la fin de la mondialisation? Beaucoup le pensent, beaucoup l'espèrent. La moitié de l'humanité est aujourd'hui confinée, les avions sont cloués au sol, les frontières sont fermées, la grande chaîne du commerce international est profondément perturbée et rien n'est moins sûr qu'une fois la pandémie passée, on revienne au monde d'avant. Invité du Grand Face-à-Face ce samedi, c'est l'un des meilleurs spécialistes de ces questions. Ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce, il a été commissaire européen. Il est aujourd'hui le président d'honneur de l'Institut Jacques Delors. Bonjour Pascal Lamy.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur France Inter. On va parler de l'Europe, évidemment. On va parler de la solidarité ou de l'absence de solidarité entre les 27 et de ce que traverse aujourd'hui l'Union. Mais partons d'abord de la mondialisation. Est-ce que c'est pour vous un coup dur, un coup d'arrêt ou un coup fatal à la mondialisation que porte aujourd'hui le coronavirus?
Difficile d'être catégorique en répondant à cette question, tant il subsiste d'incertitudes sur le plan sanitaire, sur le plan économique et donc sur le plan social au niveau mondial, et notamment... parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer aux États-Unis et en Afrique, et à supposer que, pour l'instant, on fasse confiance aux chiffres chinois. Mais ce qui est sûr, en tout cas très probable, c'est la perspective d'une forte récession économique. Chose extraordinaire en temps de paix, les États touchés ont choisi de ralentir fortement l'économie pour sauver des vies, ça va avoir des conséquences importantes en termes de perte de production, probablement de l'ordre de 30 à 40%. Et je crois, et c'est ce que j'entends dans les divers exercices de prospective de sortie de crise auxquels je participe au niveau européen et au niveau mondial, que au sortir de la crise sanitaire, nous devrons... nous confronter à une crise économique longue, douloureuse, si on ne prend pas des mesures de relance aussi extraordinaires que celles qu'on a mis en place pendant la crise. Il est probable, et je réponds à votre question dans un instant, mais en évoquant ce qu'on dit déjà Gilles Finkelstein et Natacha Polony, il est probable qu'on aura au plan mondial trois versions de la crise Covid. Une version chinoise, on supprime les libertés. Une version européenne, on active l'État-providence et les filets de sécurité sociale au sens large. Et une version américaine, qui n'est pas encore très claire, mais qui sera probablement plus violente et plus douloureuse. Alors derrière ça, la grande question qui agite tous ceux qui essaient de penser la suite, c'est effectivement si c'est une parenthèse, ou si c'est le prélude à un changement profond des modèles économiques et sociaux dominants de la civilisation et donc de la globalisation. Alors, ça relance évidemment ce débat sur les bienfaits et les méfaits de la mondialisation, qu'on a déjà eu d'ailleurs ensemble dans cette émission avec Gilles et Natacha dans le passé. Avec des positions à l'époque assez tranchées.
Dans le grand passage, il y a quelques mois.
Absolument. Je pense toujours que ce débat sur la mondialisation ou la démondialisation est inséparable de celui sur le capitalisme de marché. La mondialisation, ça n'est que la forme territoriale planétaire actuelle du capitalisme de marché, qui en a connu d'autres dans le passé, et qui en connaîtra peut-être d'autres dans l'avenir. On connaît ses bienfaits, des efficiences qui ont permis de sortir des centaines de millions de gens de la pauvreté, et des méfaits, en particulier le stress sur les humains et sur la nature, dont on peut constater les effets à la fois sur les inégalités et sur la dégradation de l'environnement. Est-ce que cette crise va changer la mondialisation ? Je crois qu'elle changera probablement davantage le capitalisme qu'elle ne le bouleversera. Et donc je pense qu'elle reconfigurera la mondialisation plus qu'elle n'entraînera une démondialisation. Et on voit ça, par exemple, sur cette grande question des chaînes de production. Hein, on sait que la mondialisation s'est traduite par une extension très rapide, oui, très forte, depuis 30 ans, des chaînes de production de biens ou de services, et les entreprises multinationales localisant leur production là où c'était le plus efficient, là où on pouvait garder le moins de stock. On en voit d'ailleurs les effets à propos de cette crise sanitaire. Cette répartition qui a accompagné le basculement de l'Asie vers l'Asie des centres de gravité de certaines productions avait déjà commencé à ralentir. Avant la crise coronavirus, elle avait ralenti à l'occasion de la crise de 2008, elle avait ralenti à l'occasion de catastrophes comme Fukushima, qui avait déjà révélé la fragilité d'un certain nombre de ces chaînes de production globale. Je pense que la crise Covid va amplifier, accélérer cette évolution vers un raccourcissement de certaines de ces chaînes de production dans certains secteurs. On peut penser au médical, je pense aussi à la technologie, surtout si on tient compte de la rivalité
sino-américaine.
Oui.
J'écoute, Alain Badou, j'écoute.
Justement, Pascal Lamy, je vais donner la parole à Natacha et Gilles dans un instant, mais quand on parle de relocaliser, quand on parle de rapatrier les chaînes d'approvisionnement dans ou sur nos territoires, quand on pense que à l'avenir, il y a beaucoup de secteurs industriels qui seront considérés comme stratégiques, et on imagine que en France, on va permettre la production de médicaments sur le sol français, de masques, évidemment. Il y a des parties entières de l'économie qu'on peut considérer comme essentiel, voire même stratégique. C'était le cas pour le nucléaire ou l'industrie militaire. Mais comment est-ce qu'on fait la liste de ce qui est absolument essentiel, de ce qui doit être produit chez soi, en France ou peut-être en Europe, et de ce qui peut, pour le coup, être délocalisé ou qui peut être produit ailleurs, à l'autre bout du monde ?
Bon, d'abord, je pense que ceci ne se joue pas au niveau français, mais au niveau européen, qui est l'échelon pertinent pour penser ce genre de stratégie. Je crois que ça dépend de deux variables. Effectivement, le caractère stratégique, encore que ce caractère stratégique peut varier avec le temps, les préoccupations d'opinion. Ça dépend aussi, par exemple, de savoir la capacité de stockage qu'on a. On peut regretter de ne pas avoir eu de masques pendant un moment, et regretter que donc les masques soient produits en Chine, même si c'est pas cher de les produire là-bas. Mais on aurait peut-être pu aussi, dans ce modèle de globalisation, on aurait peut-être pu aussi penser à avoir des stocks tampons qui évitent ce genre de pression. Donc ce que je crois, c'est que en gros, on n'aura pas un mouvement de démondialisation, on aura un mouvement de diversification de la mondialisation. Si je produis des molécules ou si je produis des puces, je n'aurai plus une seule usine en Chine qui conditionnera le reste de ma chaîne de valeur. J'aurai une usine en Chine et j'en aurai deux ailleurs. Et donc, je ne crois pas que ceci se fasse à sens unique, surtout si on veut bien considérer que l'échange international et la vie économique, ça n'est pas seulement de l'industrie, c'est pas seulement des manufactures. La plus grande partie de notre économie aujourd'hui, c'est les services. Or, dans les services, et notamment dans le monde digital, la mondialisation, va accélérer, Alain Badiou, elle va accélérer. Les flux de données, la télémédecine, c'est de l'allongement de ces chaînes de production, et donc on aura les deux mouvements ensemble.
Oui, si on peut réagir à tout ce qui vient d'être dit, et Dieu sait que beaucoup de choses ont été dites. J'ai l'impression que on a là, dans le discours de Pascal Lamy, on a dans votre discours exactement la quintessence de ce qui fait que nous risquons, hélas, de ne pas changer. C'est-à-dire la une que nous avons faite dans Marianne cette semaine, c'est « Et à la fin, est-ce qu'on va se faire avoir ?» Quand je vous écoute, je me dis que c'est couru d'avance. Pourquoi ? Premier point, vous nous expliquez que, en gros, il y a le capitalisme de marché, ou sinon, c'est quoi ? C'est la collectivisation des moyens de production, voilà. Mais donc, on est pour ou on est contre le capitalisme de marché ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesures dans la régulation, ce qui est pourtant l'évidence. C'est pas on-off. Il y a moyen de décider ce qu'on veut réguler et ce qu'on ne veut pas réguler et de quelle manière on le fait. Et or, c'est là l'important. On n'ouvre pas ou on ne ferme pas les frontières, on ne laisse pas totalement tout à volo ou alors on régule tout. Il y a des degrés d'importance, sauf que vous nous dites, mais ça dépend de la variation de l'opinion, ce qui est stratégique ou ce qui ne l'est pas. Or, justement, le rôle du politique pour essayer de préserver les intérêts et de protéger les citoyens, ce qui est le rôle de l'État, c'est justement d'avoir une vision, c'est-à-dire de ne pas flotter au gré du vent, mais de déterminer ce qui est essentiel, ce qui est stratégique ou ce qui ne l'est pas. Ali citait dans les choses que nous avions considérées avant comme essentielles le nucléaire, comme si c'était une évidence. La preuve, c'est que nous avons vendu Alstom, ce qui prouve que même le nucléaire, on n'a pas considéré que c'était stratégique. Et donc, encore moins le médicament. Or, la mondialisation dont vous parlez, Pascal Lamy, c'est une mondialisation qui aurait pu prendre plusieurs formes. Il n'y a pas la mondialisation ou rien. Il y a différentes façons d'organiser cette mondialisation. Celle que nous avons mise en place est une forme de globalisation, c'est-à-dire d'uniformisation d'un marché mondial, selon des règles qui sont les règles du court terme et du low cost. L'idée que l'on va, vous disiez tout à l'heure, là où c'est le plus efficient, en fait, là où ça coûte le moins cher à produire. Et en effet, on étend indéfiniment les chaînes de production. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que c'était une catastrophe. Ceux qui le disaient avant étaient considérés comme épouvantablement ringards. En effet, alors, c'est une catastrophe. Juste, attendez, non, mais j'ai besoin d'aller au bout du raisonnement avant qu'on puisse... Comme il y a un décalage entre nous, on est obligé de prendre le temps, donc je prends aussi le temps d'aller au bout de mon raisonnement. La question est celle de l'interdépendance et des abandons de souveraineté. Or, vous nous dites ça doit se régler au niveau européen. Vous nous dites ça doit se régler au niveau européen, mais nous voyons justement que les choses n'ont pas été faites de la même manière. C'est-à-dire que le discours que vous tenez, en effet, c'est celui qui a conduit la France là où elle est, pendant que l'Allemagne fabrique des respirateurs, fabrique des tests, parce que justement l'Allemagne a préservé ce qui semblait essentiel, c'est-à-dire les éléments de sa liberté. On peut faire du multilatéralisme, on peut faire du commerce international, on peut faire de la mondialisation quand on a les éléments de sa liberté, c'est-à-dire qu'en cas de crise, on ne dépend pas des autres sur les choses vitales. Or, c'est tout cela, le modèle que vous avez toujours prôné et que vous continuez à prôner visiblement, c'est celui qui nous empêche d'avoir ce minimum de liberté qui permet d'être ouvert aux autres et qui permet que tout se passe bien.
Pascal Lamy.
Merci de me donner l'occasion de réagir. Je ne vais pas rentrer dans la polémique parce que pour l'instant, face à cette crise, je me pose des tas de questions. Je suis beaucoup moins catégorique, comme d'habitude, que Natacha Polony, mais c'est normal, elle est une polémiste.
Non, j'essaie d'être un analyste,
en l'occurrence. Je me pose beaucoup de questions sur
moi
la
aussi.
Suite. Et je pense que c'est une crise qui laissera des traces sur le capitalisme et donc sur la mondialisation. Tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a plusieurs versions de la mondialisation. Tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a plusieurs versions du capitalisme. J'ai d'ailleurs toujours plaidé pour une forme de la mondialisation que j'appelais maîtriser. C'est une expression que j'ai utilisée en 99 quand j'ai passé mon examen de passage comme commissaire. Et donc, cette crise va modifier le capitalisme. Elle ne va pas le bouleverser, ne serait-ce que parce que je crains qu'il n'y ait pas de solution alternative disponible, de proposition crédible sur la table pour l'instant. Elle ne va pas le bouleverser, mais elle va le modifier parce qu'elle va changer le rapport de force entre les pouvoirs publics en charge de l'intérêt général et le capitalisme, c'est-à-dire en gros les détenteurs des entreprises. Je crois que ceci ne provient pas du fait que les opinions vont être persuadées par Natacha Polony que le souverainisme c'est mieux que les européistes, comme dit Védrine. Je crois pas que ça
viendra.
Je crois que ça viendra.
Je ne sais pas ce qu'est le souverainisme parce qu'elle l'a mis.
Je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. On travaille dans des conditions difficiles. Je ne vous ai interrompu.
Natacha, laissez Pascal
l'a dit. Ce que je crois, c'est que c'est à la faveur du déversement de milliards et de milliards de dollars ou d'euros, c'est à la faveur du déversement de ces énormes quantités d'argent public que le rapport de force entre les pouvoirs publics en charge de l'intérêt général au niveau national et au niveau européen et les entreprises changeront. Je n'imagine pas qu'en sortie de crise, ces milliards et ces milliards de monnaie hélicoptère, comme on dit, ne soient pas, à un moment ou à un autre, conditionnés et ne redonnent pas la main aux pouvoirs publics, aux États, aux souverains, à l'Union européenne, sur un certain nombre des évolutions du capitalisme et donc de la mondialisation. C'est ce que je sens, même si, encore une fois, je suis très prudent, compte tenu des énormes incertitudes qui subsistent.
Alors, peut-être pour ne pas reproduire le débat que nous avions eu déjà il y a quelques mois et qui est toujours le risque lorsqu'il y a une crise, c'est que on reproduit le même débat et on reprend les mêmes positions. Peut-être une remarque et deux questions. La remarque très courte, c'est que Pascal Lamy au début disait qu'il y avait trois versions de réponse à cette crise. Je suis très frappé. Je pense même que ça va au-delà et que ce qui est fascinant, c'est que tous les régimes politiques tombent du côté où ils penchent. C'est-à-dire que la réponse de la Hongrie est d'être plus autoritaire, la réponse de la Suède est d'être plus scientiste, la réponse du Brésil, c'est d'être plus irrationnel, la réponse de la Corée du Sud, c'est d'être encore plus technophile. Et en fait, ça exacerbe des tendances qui préexistaient au-delà des trois grands ensembles que vous avez évoqués. Les deux questions, très courtes. La première, elle est sur la nature de cette crise. Quel est le diagnostic que vous formulez? Est-ce que c'est une crise? C'est une crise mondialisée, à l'évidence, puisque la moitié de la population de l'humanité est aujourd'hui confinée. Est-ce que vous considérez que c'est une crise de la mondialisation? Et deuxième question, ce faisant, sur les conséquences que l'on en tire, on a évoqué depuis le début un certain nombre de biens dont on voit, compte tenu du stade de la mondialisation dans lequel on est, les difficultés d'accès, on a parlé des masques ou des médicaments. Est-ce que vous considérez que sur ces questions-là, on est allé trop loin dans la mondialisation et qu'il faut relocaliser en France ou en Europe, ou qu'on n'est pas allé assez loin et qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut mutualiser? Et si tel est le cas, est-ce que il n'y a pas qui émerge de cette crise un problème politique de confiance dans les différents acteurs de la mondialisation, quand on voit le manque de transparence sanitaire des Chinois au début, ou les difficultés de respect de la parole commerciale quand on voit les guerres sur le tarmac pour l'obtention des masques? Est-ce que là, on n'a pas aussi un problème pour la mondialisation?
Non, réponse agile, Finkelstein, je crois que comme toute crise, celle-ci...
Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc Pascal Lamy, des réponses courtes, s'il vous plaît. Et d'abord, crise de la mondialisation, point d'interrogation.
Bien sûr, parce que crise du capitalisme, à cette occasion, parce que la crise sanitaire entraîne une crise économique et possiblement une crise sociale qui va au-delà des problèmes de survie ou de la peur que les gens ont d'être contaminés ou de contaminer les autres. Donc je crois que c'est le système qui effectivement révèle un certain nombre de ses traits. Et parce que les pouvoirs publics vont intervenir très fortement, ceci va changer les équilibres du capitalisme et donc ceux de la mondialisation. En même temps, sans doute, est-ce qu'on se penchera à la sortie de crise sur, par exemple, le fait que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas vraiment de prise sur les comportements des États. Il y a un règlement sanitaire international qui, en théorie, aurait obligé la Chine à déclarer ce qui s'est passé chez elle plus tôt et de manière plus transparente. Il n'a pas été appliqué. Effectivement, il y aura des conséquences à tirer en termes de gouvernance globale, j'en suis persuadé, de même qu'il va y en avoir au niveau européen, dont on va dire un mot maintenant.
On va en parler. Évidemment, j'ai juste une question très rapide à vous poser. Quand on voit que les économies aujourd'hui sont super intégrées, même si les frontières aujourd'hui sont fermées, que les avions sont cloués au sol, un tiers des bons du Trésor américain, par exemple, et de manière grossière, sont achetés par des Chinois. De toute façon, ça restera la réalité d'économies interdépendantes, quoi qu'il arrive, Covid ou pas Covid.
Affirmatif, comme disent les militaires. Le degré d'interdépendance ne changera pas. C'est la manière de gérer cette interdépendance. Et là, je vais peut-être dans le sens de Natacha Polony. C'est la manière de gérer cette indépendance qui devra changer. Et notamment, encore une fois, à cause de cet énorme déversoir d'argent public qui aura d'ailleurs des conséquences sur la dette qu'il faudra gérer plus tard un jour.
Justement, on s'aperçoit que rien ne sera plus jamais comme avant. Si vous pouvez être d'accord avec Natacha Polony, c'est que nous avons un espoir pour le monde d'après. Je le dis en souriant, mais parlons oui, de l'Europe, puisque vous êtes le président d'honneur de l'Institut Jacques Delors. Il y a une question qui est posée et que se posent beaucoup de citoyens européens, Pascal Lamy. En l'occurrence, c'est la question de la solidarité ou de l'absence de solidarité entre les 27. Déclaration de Jacques Delors il y a quelques jours à l'AFP, je le cite, « Le manque de solidarité fait courir à l'Union européenne un danger mortel. » Fermez les guillemets. L'Europe est en danger de mort face à cette crise, Pascal Lamy.
Je pense que Delors a raison. Et en même temps, je crois qu'il faut... on redécouvre à cette occasion que si l'Europe est le bon niveau de gouvernance dans certains domaines, ça n'est pas le cas partout. L'Europe, elle est plutôt dans le long terme que dans le court terme. Il y a à Bruxelles plus d'architectes que d'urgentistes ou de pompiers, comme disait Delors. Et les autorités européennes sont généralement pas très très bonnes dans la gestion de crise parce que c'est les États qui sont en première ligne quand il s'agit de santé publique ou d'ordre public. Il y a eu des faux pas au début, une mise en route un peu cafouilleuse. Je pense que ça va mieux maintenant. Les deux questions qui se posent, et je le vois parce que je travaille avec eux et que les instituts Jacques Delors, Paris, Berlin, Bruxelles sont en pleine réflexion, c'est effectivement la question du niveau de solidarité. Et puis aussi, question très importante, c'est qu'est-ce qu'on fait du Green Deal ? Qu'est-ce qu'on fait du pacte vert sur le niveau de solidarité ? Oui. On a tous entendu le cri d'alarme de Delors. Comme d'autres crises, c'est un test de la solidarité européenne. Là aussi, les débuts ont été plutôt cata. Hein, on a quand même complètement laissé tomber l'Italie, qui a été la première frappée par la crise Covid. Je pense que c'est mieux maintenant, mais ça relance effectivement une question de toujours, sur laquelle Delors avait écrit d'ailleurs en 1988, quand il avait fait le rapport pour préparer l'euro. Est-ce que la zone euro est une zone monétaire optimale, comme disent les économistes ? Quel degré de solidarité entre des pays qui, confrontés à un choc pareil, doivent réagir en mettant de l'argent public sur la table ? C'est toute la question de savoir s'il est normal ou juste que ces États payent leur argent, ce qu'ils empruntent, à des taux différents dès lors que nous sommes dans une monnaie unique. Je crois que cette question est relancée. Il y a plusieurs solutions à cela. Soit on déverrouille le budget communautaire, soit on fait un fonds spécial, soit on fait des eurobonds, des coronabonds.
Oui.
Mais je crois que à court terme, la grande question qui se pose à Bruxelles pour l'instant, c'est qu'est-ce qu'on fait du pacte vert, hein, c'est-à-dire cette idée qu'il fallait décarboner nos économies à l'échéance 2050. Voilà. On verra ce qu'il advient de la suite. J'ai quelques idées sur la question. Revenons un moment sur cette affaire de pacte vert, parce que c'était le grand axe du quinquennat de Madame von der Leyen et de la Commission et du Parlement européen. Et je crois qu'à Bruxelles, en ce moment,
il y a vraiment très rapidement, deux écoles. Parce que l'émission touche à son terme.
Absolument.
Si on peut dire un mot, parce que...
Il y a l'école. Voilà. Il y a l'école de ceux qui disent « laissez tomber le pacte vert ». C'est plus urgent. En gros, c'est un peu ce que dit le patronat européen. Et puis, il y a un autre camp dans lequel il y a les instituts Jacques Delors qui dit la monnaie hélicoptère, c'est très bien, mais ça doit être conditionné à une forme d'accélération de la transition climatique. Et cette crise, au fond, est une occasion d'aller plus vite dans une direction que les Européens avaient adoptée et dont je trouve qu'il serait très dommage qu'ils s'écartent à cette occasion.
Oui.
Alors, juste, si on peut, puisque ça va être... je suis intervenue une fois, je vais intervenir encore une dernière fois, puisque c'est la fin de l'émission, pour dire que cette question du rôle de l'Europe et de la façon... Oui, justement. Donc, rapidement, cette question de l'Europe se pose de la même manière que tout ce que nous avons dit depuis le début de cette émission, c'est-à-dire, en gros, va-t-on continuer sous couvert d'être un analyste très neutre et surtout de se poser des questions, va-t-on continuer à faire rigoureusement comme avant sans tenir compte de toutes les limites du système telles qu'elles apparaissent en cas de crise, parce que c'est en cas de crise qu'on s'aperçoit des limites d'un système, ou est-ce qu'on va changer les choses en prenant compte de différents éléments? D'abord, la question de l'indépendance, la façon dont on assure l'indépendance d'un État et d'une nation, la façon dont on construit à partir de cette indépendance un lien avec les autres pays d'Europe. Je le redis, nous, la France, sous justement le discours de beaucoup d'experts qui trouvaient ça génial, les services, la mondialisation, et qui continuent visiblement à trouver ça génial, eh bien la France n'a pas assuré ce qui fait la protection de ses citoyens quand l'Allemagne l'a fait. Et l'Allemagne, aujourd'hui, se sentir mieux parce qu'elle maîtrise ses politiques. C'est-à-dire que l'économie n'est pas tout, l'économie est faite pour être soumise aux politiques et aux choix de vision. Ça passe par une régulation, ça passe par la préservation de l'industrie et ça passe par les circuits courts. Vous parlez du pacte vert, Pascal Lamy, il n'y a pas de pacte vert quand on étend les chaînes de production et quand on fait venir des porte-containers du reste du monde. Ça ne marche pas, le pacte vert, avec une mondialisation néolibérale totalement dérégulée.
J'aimerais qu'on laisse le dernier mot à notre invité Pascal Lamy. La parole est à Pascal Lamy, Natacha.
Je pense que le pacte vert est un grand projet, que c'est une manière pour l'Union européenne d'assumer son identité dans une mondialisation qu'il faut maîtriser. Et je crois que la grande question, c'est de savoir si nous continuons à peser sur cette mondialisation. Ça n'est pas en le faisant individuellement que nous y parviendrons, face à des mastodontes comme la Chine ou les États-Unis. Nous devons avoir notre propre version européenne d'une mondialisation plus équilibrée. On l'a sur le plan social, on essaie de l'avoir sur le plan écologique. Nous devons faire ça ensemble, ou sinon d'autres le feront pour nous.
Un dernier mot, vous comprenez que la présidente de la Commission européenne en soit venue à présenter ses excuses à l'un des pays fondateurs de l'Union, à savoir l'Italie ?
Absolument. D'ailleurs, je viens de dire ce que j'en pense. Il y a eu des cafouillages au départ, il y a eu des faux pas. Ça n'est pas, encore une fois, dans l'urgence qu'on juge la valeur, la capacité de l'Union européenne. C'est dans le long terme. Les compétences européennes ne sont pas dans le court terme. Et donc, si l'on veut aller dans le sens d'une mondialisation plus maîtrisée, d'un capitalisme plus équilibré, et cette crise
et ce sera justement...
en offre l'occasion, alors nous devons le faire au niveau européen.
Et ce sera la conclusion. Merci infiniment Pascal Lamy et merci de nous avoir permis de réfléchir à ces questions importantes, d'imaginer le long terme, bonne journée, même confiné. Natacha et Gilles, merci les amis, à samedi prochain. Merci à vous de nous avoir suivis, c'était vraiment passionnant. Merci à Paola Purari qui a préparé l'émission, à la réalisation Stéphanie Texier, à la technique Patrick Henry, Henri Bérec et Philippe Duclos à suivre sur France Inter.